Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas Sibylle et j'aimerais qu'il nous parle de traduction du Coran. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thomas Sibylle est libraire, éditeur et auteur. Il est responsable des éditions Héritage et des éditions et de la librairie El Bayna. Thomas, salam alaikum, merci d'avoir accepté l'invitation. On voit dans le commerce beaucoup de traductions du Coran. Pourquoi y en a-t-il autant? Et est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur cette variété de traductions du Coran? Parce que eh bien, certaines personnes ne savent pas forcément quoi acheter. En fait, il y en a tellement que finalement, ils peuvent être perdus.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Alors effectivement, il existe beaucoup de traductions du Coran. Donc des fois, on est un peu perdu. On se demande laquelle choisir. Et en fait, la première question qu'il faut se poser, ce n'est pas quelle est la meilleure traduction, mais quelle est la traduction qui correspond à mes attentes, qui correspond à mon besoin. Et en fait, pour ce faire, les catholiques ont mis en place un espèce de système qui permet d'évaluer les différentes traductions qui existent. Ils vont, par exemple, partir de la plus littérale à la plus dynamique. Ils vont ensuite parler des Corans d'études, enfin des Bibles d'études plutôt, des Bibles de découverte, etc. Et donc, on peut, nous aussi, proposer un espèce donc, de barème comme ça pour essayer de juger les traductions et voir en fait à quoi elles correspondent. Est-ce que ce sont des traductions de découverte, donc qui conviennent pour une première lecture? Est-ce que ce sont des traductions d'études qui vont nous pousser justement à approfondir l'essence d'une manière plus intense, plus importante? Et donc en établissant, on va dire, ce type de schéma, si on peut dire ça, ça va nous aider à savoir quelle traduction choisir. Et surtout, il ne faut pas tomber dans un piège qui serait de dire que certaines traductions sont meilleures que d'autres. En fait, chaque traduction est un effort de la part donc, du traducteur et correspond un petit peu à l'exégèse, puisque finalement, lorsqu'on traduit, on est obligé donc, de prendre des choix de traduction. Et donc, chacune va en fait apporter quelque chose de plus. Et donc, on ne peut pas dire ou disqualifier certaines ou éloger certaines. On doit plutôt comprendre que chacune répond à une demande particulière. Alors, ce que moi je vous propose, c'est de découvrir ensemble quelques traductions qui existent, afin donc de voir les subtilités, les différences qu'il y a entre chacune d'entre elles. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de prendre deux divisions. La division donc, que je vous propose, ce serait Coran d'études, Coran de découverte. Coran d'études, c'est toutes les traductions qui vont nous demander d'analyser, enfin qui vont nous permettre plutôt d'analyser en détail le texte coranique et donc d'explorer la profondeur de ses significations. Et les Corans de découverte, donc comme on l'a dit, c'est plutôt les traductions qui vont nous épargner d'un tas de notes et qui vont aller, on va dire, directement à l'essentiel, c'est-à-dire à la réflexion sur le texte coranique. Donc pour une personne qui n'est pas musulmane, par exemple, qui veut se familiariser avec le Coran, ou pour une personne qui est dans sa première lecture, ou bien tout simplement une personne qui veut juste lire pour méditer. Mais avant de faire cela, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à la question de la traduction du Coran. Puisque l'islam, dès ses premières heures, s'est propagé d'abord en Arabie, puis à travers le monde. Et il a fallu attendre le 4e siècle pour qu'il y ait enfin des traductions complètes du Coran. Avant, il y avait parfois des traductions qui avaient lieu d'un passage en particulier, par exemple lorsque Ja'far s'adresse au Négus et qu'il lui cite des versets de Sourate Maryam et qui donc sont traduits, expliqués au Négus afin donc qu'il puisse comprendre le sens de ces versets. Ce n'est pas une traduction complète du Coran, c'est vraiment dans un but d'expliquer un passage du Coran. Sinon, les peuples qui ont embrassé l'islam ont toujours appris l'arabe et se sont toujours référés à la langue arabe pour la traduction du Coran. Et donc il y a eu une certaine réticence de la part des savants tout au long donc de l'histoire de l'islam pour la traduction complète du Coran. Et d'ailleurs, les traductions françaises, donc en français ou bien en latin du Coran, sont surtout le fruit d'orientalistes ou d'islamologues, plus que de musulmans eux-mêmes. On a des premières traductions qui apparaissent, par exemple, au moment du Moyen-Âge, afin donc de justifier que les musulmans seraient des méchants sarrasins qu'il faut aller combattre lors des croisades. On en a du temps des Lumières, afin de pouvoir critiquer le clergé, de justifier la liberté religieuse des protestants, ou bien de s'en inspirer tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, donc, de nombreux islamologues qui étaient, par exemple, islamophiles qui cherchaient à comprendre donc l'islam avaient besoin de pouvoir on va dire traduire le Coran afin d'avoir accès à ce qui à son contenu, mais également à le diffuser dans la société. D'ailleurs, on raconte que Napoléon a lu la traduction de Savary, du Coran par Savary, lorsqu'il se dirigeait vers Alexandrie, pour la campagne d'Égypte, etc. Donc, ça a été à ce moment-là, on va dire, le fruit d'un travail intellectuel de la part de non-musulmans, puisque c'était, on va dire, un petit peu fermé et mal vu dans le monde musulman de pouvoir traduire le Coran et accéder au Coran dans une autre langue que l'arabe, puisque le Coran étant une révélation, donc un texte sacré, il était pas approprié, on va dire, de le traduire entièrement dans une autre langue, bien que ça n'a pas empêché, tout au long de l'histoire, qu'il y ait des traductions de certains passages pour la nécessité de l'explication d'un passage à un autre. La première traduction en français, de manière complète, aura lieu en Algérie en 1931. C'est un avocat qui s'appelle Ahmed Laïmèche, accompagné d'un autre homme de lettres qui s'appelle Ben Daoud, qui décide donc de traduire le Coran de manière complète. On aura ensuite une autre tentative en 1936 par le Hadj Ahmed Tidjani, donc au Maroc, qui va également donc se prêter à l'exercice. Et en fait, on voit que à ce moment-là, les nécessités de l'histoire, les nécessités historiques, puisque c'est la rencontre entre un peuple musulman et des colonisateurs, font qu'il y a besoin donc de donner accès au Coran dans une autre langue, soit parce que certains en Maroc, en Algérie, ne sont plus arabophones du fait donc de la difficulté maintenant de pouvoir accéder à l'école, ou bien parce que justement des personnes qui ne sont pas musulmanes vivent maintenant sur ces terres d'islam et il faut donc pouvoir leur présenter ce que dit le texte coranique. Donc c'est des premières tentatives de traduction qui existent à ce moment-là et ça va en fait ouvrir la porte à ce que de nombreux musulmans par la suite se mettent à traduire le Coran. Et c'est là qu'en 1959, il y aura donc la première traduction en France, en français, qui va être effectuée. Donc il y aura une maison d'édition qui souhaitera justement avoir une traduction faite par un musulman, par un croyant qui vit le texte, qui est conscient donc des enjeux du texte et qui cherchera un traducteur. Et Louis Massignon proposera justement le professeur Hamidollah. Dans un premier temps, celui-ci va refuser parce qu'il n'est pas francophone de naissance. Mais il va prendre sa responsabilité puisqu'il va se comprendre l'enjeu qu'il y a derrière justement le fait de traduire, car il sait que si lui ne le fait pas, d'autres le feront et peut-être qu'ils ne seront pas compétents, mal intentionnés, etc. Alors il va malgré tout le faire, mais il va le faire d'une manière très littérale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il va essayer de coller le maximum aux mots et aux formes du Coran afin donc de pouvoir proposer une traduction digne de ce nom, sans que ce soit une traduction, on va dire, sans que ce soit une exégèse, sans qu'il ait besoin de prendre position sur le sens donc des versets, quand il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous livrer son érudition en justement proposant de nombreuses notes qui sont soit tirées de d'autres versets coraniques, soit de références bibliques, soit de références hindoues, soit historiques, etc. Donc il va, on va dire, témoigner de sa grande érudition et de sa large culture à travers justement sa traduction. Ça sera la traduction qui sera la plus acceptée, la plus diffusée, au point que le complexe du Rafat de Médine enfin, la prendra et se servira donc de celle-ci comme d'une base, à travers laquelle ils, on va dire, remanieront certaines choses, ils enlèveront ses notes et certains de ses choix de traduction pour aller vers d'autres notes. Mais bien sûr, c'est quand même un comité sérieux qui était dirigé par plusieurs savants, dont Ahmed Lo du Sénégal, par exemple. Et c'est cette traduction qui sera donc la plus diffusée à travers le monde, mais elle a pour base, on va dire, l'effort important donc du professeur Hamidullah. Et par la suite, bien sûr, il y a eu énormément donc de traducteurs. On peut citer Maurice Glotton, on peut citer la traduction des éditions Tawhid, pardon, celle des éditions Taouba de Nabil Alouane, celle des éditions Al-Bayna de Rachid Maach, etc. Donc par la suite, on voit que ça s'est vraiment ouvert. On peut également citer celle d'Abdallah Penaud, etc. Donc il y a un nombre extrêmement important de traductions qui ont vu le jour par la suite. Preuve en est donc qu'il y a une forte demande de pouvoir comprendre et lire le Coran dans sa langue. Donc toutes ces traductions, maintenant, il faut essayer de les décrypter pour comprendre les spécificités de chacune d'entre elles et à qui est-ce qu'elles vont répondre, ou bien plutôt à quel besoin est-ce qu'elles vont répondre. Alors la première d'entre elles, forcément, on va parler de celle qui est historique, celle de Hamidullah. Celle-ci, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que le professeur Hamidullah va être très littéral. Ça veut dire qu'elle n'est pas agréable à lire. Elle n'est pas esthétique. Il ne cherche pas l'esthétique dans sa traduction, mais il cherche la conformité, être le plus proche du texte arabe. Mais en fait, c'est quasiment un tafsir. Pourquoi? Parce que, donc on peut le classer, pardon, dans les Corans d'études, c'est quasiment un tafsir parce que, à tout au long en fait de sa traduction, il agrémente des notes. Par exemple, lorsqu'il va parler de l'envoi du prophète Mohammed alayhi comme messager, eh bien, il va citer des références bibliques, donc autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, qui annoncent la venue d'un prophète, et en l'occurrence de Mohammed sallam. Il va également le faire avec la Velda, donc le livre hindou, dans lequel il y a aussi des références à l'envoi du prophète Mohammed alayhi. Il va également s'autoriser donc des déductions assez riches. Comme par exemple lorsqu'il va parler du prophète Dhul-Kifl et qui va donner l'éventualité que ce serait Bouddha en expliquant que l'un comme l'autre ont reçu une révélation en dessous d'un arbre, etc. etc. Bon, après, je vous invite à consulter justement ces notes pour plus d'explications. Donc on voit que c'est vraiment un courant d'études qui a pour spécificité de réunir de nombreuses notes, mais qui sont vraiment... enfin, des notes extrêmement riches. Pourquoi? Parce que ça peut aussi bien être l'explication d'un verset du Coran par un autre verset du Coran que par des paroles du prophète alayhi, que par des livres anciens comme la Bible ou bien l'Ancien Testament ou bien donc des textes hindous, des références historiques, etc. Ce qui fait vraiment sa force et sa spécificité. Ensuite, toujours dans les Corans d'études, on a celui de Hamza Boubakar qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est plus qu'une traduction, c'est vraiment une exégèse. Il va analyser en détail les différentes sourates et proposer de longues explications. Et pour ce faire, il va réunir ou mobiliser toutes sortes d'exégèses. Autant des exégèses anciennes et classiques comme Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, etc., que des exégèses contemporaines comme Mohamed Abdou, Rachid Reda, ou bien des exégèses militantes comme Saïd Qutb, etc. Et il va tirer donc des enseignements des versets coraniques qu'il traduit, qui sont contemporains. Par exemple, à ce moment-là, il y a le socialisme arabe, enfin, donc, au moment où il le traduit, qui est très prégnant dans le monde arabe, et donc il va en profiter pour critiquer le socialisme arabe. Il va faire des comparaisons lorsqu'on parle de la Trinité, par exemple, ou lorsqu'on parle du péché originel, donc de montrer la position chrétienne sur ces sujets-là et comment est-ce que l'islam a répondu donc à ces préjugés. Il va critiquer certains orientalistes qui accuse donc la décadence du monde musulman par le fait qu'il soit musulman, justement. Donc c'est, on va dire, une traduction et une exégèse qui est plutôt militante, actuelle et contemporaine. Ensuite, on a celle de Maurice Glouton, qui est toujours donc parmi les courants d'études, qui est très intéressant, parce qu'en fait, sa traduction est complètement différente des autres. Il va faire des choix de traduction qui sont bien souvent marginales par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, mais il va l'expliquer. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est de revenir à chaque fois à la racine de chaque mot, à l'étymologie. Il explique en fait chaque mot, la racine du mot, en fait, c'est le sens d'origine. Et que les dérivés, bah, c'est des sens qui vont s'ajouter à celui-ci. À chaque fois, en fait, qu'il va traduire un mot, il va le traduire en fonction de la racine de ce mot, en fonction de l'étymologie. Donc, en fait, c'est un exercice assez fort et délicat, puisque c'est une traduction, on va dire, du Coran par l'étymologie arabe, afin donc justement de pouvoir faire refléter un maximum la portée entière du mot et non pas lui donner une interprétation exégétique et un choix bien particulier. C'est donc ce qui fait la spécificité et la richesse de ce courant d'études qui, pour une personne lambda, peut être assez déstabilisant dans un premier temps, mais pour une personne qui commence à étudier l'arabe et qui justement s'intéresse à la racine des mots, eh bien, va apprécier d'avoir donc une lecture comme ça qui détaille les mots au point de ne pas hésiter à traduire un seul mot par une phrase entière de façon à ce que ce soit bien conforme à la racine du mot et qu'on ait, on va dire, une vision encore plus large qu'une simple traduction. Donc c'est vraiment une exégèse complète, mais une exégèse qui est construite sur la langue arabe et sur l'étymologie des mots en arabe. On sent également qu'il a été très influencé par René Guénon, Michel Valsan, donc il y a une portée spirituelle qui est prégnante tout au long, on va dire, de sa traduction. Ensuite, on peut parler du Coran aux éditions Taouba. Le Coran aux éditions Taouba, il est né d'un projet particulier, c'est-à-dire que le traducteur, donc Nabil Alioune, avait pour ambition de traduire le tafsir d'Ibn Kathir. Et forcément, quand on traduit le tafsir d'Ibn Kathir, bah, on traduit également le Coran. Et puisqu'il n'était pas extrêmement satisfait de ce qui existait en termes de traduction, il a voulu justement proposer une traduction qui soit revue, améliorée, et donc qui soit une traduction, cette fois-ci, clairement exégétique, mais construite justement sur le tafsir d'Ibn Kathir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il reprend les choix d'Ibn Kathir lui-même dans son interprétation. Et donc, ça nous fait une traduction qui n'est pas du tout littérale, mais qui est vraiment une traduction explicative du Coran, basée sur les explications d'Ibn Kathir lui-même. Et pour ce faire, il met énormément de notes, ce qui fait que ça peut être perturbant pour une lecture de méditation, mais ça peut être extrêmement intéressant pour une lecture qui demande justement, enfin pour quelqu'un qui souhaite approfondir, tout en sachant bien sûr que les avis mentionnés sont à chaque fois les avis d'Ibn Kathir, sauf de temps à autre, il se permet donc de proposer des avis de Tabari, Shawkani, etc., etc. Mais globalement, on va dire que la traduction du Coran par les éditions Taouba, c'est un résumé du tafsir d'Ibn Kathir. Alors bien sûr, on pourrait en citer encore beaucoup d'autres, mais pour ne pas alourdir le propos, je vous propose qu'on change de catégorie et qu'on aille cette fois-ci dans les courants de découverte, et non plus dans les courants d'études. Et dans les courants de découverte, je pense que le meilleur exemple, c'est celui de Rachid Mahesh. Pourquoi Rachid Mahesh? Parce que, donc c'est, pour le situer un petit peu, c'est une personne qui a fait une école de journalisme, qui était journaliste en France, qui est partie par la suite étudier à Médine, qui s'est spécialisée donc dans les sciences du Coran et les sciences religieuses, qui est traducteur depuis de nombreuses années et qui a eu l'envie de traduire le Coran afin de mettre à disposition des gens un Coran qui ne soit pas cette fois-ci justement trop littéral, avec des traductions très brutes qui peuvent déstabiliser le lecteur, mais de privilégier plutôt l'esthétique, en essayant justement de coller avec la beauté du style coranique. Et forcément, bah, ça demande dans la traduction de prendre des choix au niveau de l'exégèse, puisque le but étant de donner directement une bonne compréhension, une compréhension agréable qui ne demande pas d'avoir beaucoup de notes qui perturbent la lecture, ou bien des textes trop littéral, des phrases trop littérales et trop brutes, forcément, il est obligé pour cela de se baser sur des commentaires. Donc, ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il revient aux commentaires donc, de référence, que ce soit Tabari, Ibn Kathir, Ibn Ashur, etc., etc. Il regarde donc comment est-ce que les exégètes ont compris ces versets et il traduit en fonction justement de leur compréhension, ce qui rend donc extrêmement pertinent ses choix de traduction. Et à chaque fois, donc, il traduit de manière à ce qu'il ne laisse aucun doute et qu'il ne puisse pas y avoir des préjugés qui soient alimentés par la suite ou des incompréhensions de la part du lecteur. Ce qui fait que ça nous fait une lecture de découverte qui est parfaitement adaptée pour les non-musulmans ou bien pour toute personne qui cherche à méditer le Coran, mais vraiment une lecture, on va dire, qui est prenante de par sa beauté et de par la clarté des propos et des sens qui sont donc révélés au fur et à mesure de la lecture. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, comme vous le savez, il y a plusieurs variantes donc, dans les lectures du Coran. Et généralement, dans le monde entier, la lecture qui est la plus répandue, c'est la lecture donc, selon Warsh. Bien qu'en France, on lise beaucoup selon Hafs. Et on a décidé, donc, dans les éditions Al-Bayna, de justement le publier dans les deux versions, en Hafs et en Warsh, afin justement de faire connaître d'autres variantes de lecture, donc avec les subtilités qu'il peut y avoir au niveau de la traduction, et de permettre aux personnes justement qui ont l'habitude d'apprendre ou de lire en Warsh, d'avoir aussi une traduction qui soit adaptée. Alors bien sûr, on pourrait continuer à donner beaucoup d'autres exemples en termes de traduction, puisque les traductions que je vous ai données, ce sont seulement quelques exemples. Il en existe bien d'autres et ce n'était pas pour limiter ou pour dire que celles-ci sont les seules qui sont valables. Non, non, c'était pour illustrer un petit peu mon propos et montrer donc la richesse des traductions qu'il y a et qu'il ne faut pas penser que telle est meilleure que l'autre, mais en fait voir en fait ce que chacune peut apporter par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, lorsqu'on est amené à devoir réfléchir sur un sujet ou sur une sourate en particulier, c'est même intéressant d'avoir toutes ces différentes traductions pour pouvoir comparer les différentes approches qu'il peut y avoir. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est de prendre un exemple, donc une sourate en particulier, et voir prendre un verset, ou bien le titre de la sourate, et voir comment chaque traducteur la traduit. Ça nous permettra d'illustrer en fait la richesse des différentes traductions et ce que ça peut nous apporter. Alors justement, à titre d'exemple, on va prendre sourate Al-Falaq. Sourate Al-Falaq, donc, on a le professeur Hamidullah qui l'a traduit par la fente. La fente, comme ça, on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est que c'est une traduction très littérale. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met une note dans laquelle il dit que cela désigne la fente de la terre, en référence à un autre verset coranique. Donc là, il fait une exégèse du Coran par le Coran, Falikul Habbi wan Nawa, donc celui qui va fendre la graine. Et donc il explique que ça désigne la fente de la terre par la germination et du ciel par la venue de l'aube. Donc il donne les deux sens possibles. Donc on voit qu'en fait sa traduction est littérale, mais avec son explication, il cite un verset coranique qui va expliciter un peu plus le sens. Ensuite, on voit que donc la traduction du complexe du Rafat, donc qui est basée sur celle de Hamidullah, a tranché directement en mettant l'aube naissante sans. Donc c'est directement une traduction, on va dire. D'exégèse, hein, sans commentaire, sans rien. Hamza Aboubakr, pareil, l'aube naissante, pardon. Glouton, donc Maurice Glouton, le point du jour. Donc on voit à chaque fois là, c'est directement des choix de traduction, c'est une traduction exégétique. Ce n'est ni littéral, ni on propose une note. Et regardez la Taouba, ce que Nabil Alouane propose donc dans l'édition Taouba. Il met donc en titre l'aube naissante, mais là il met une note extrêmement intéressante. Il dit celui qui est capable de dissiper les ténèbres, qui recouvre le monde, est capable de dissiper le mal qui touche celui qui cherche protection auprès de lui. Donc tout de suite, elle apporte une leçon supplémentaire, en plus de ça, spirituelle. Et ensuite, donc pour la traduction de Rachid Mahache, il a mis directement l'aube. Donc on voit qu'il va à l'essentiel afin de ne pas perturber trop la lecture. Donc on a ici un exemple, par l'exemple, de la richesse que chaque traduction peut apporter à la réflexion, à la méditation autour du Coran. Wallahu alam. Donc on voit ici en fait qu'on a deux types de traductions, donc des Corans qui sont des Corans d'études, qui permettent donc pour certains d'approfondir les sens à la lumière donc des explications d'Ibn Kathir. Je pense ici à la traduction des éditions Taouba, ou bien à la lumière de l'étymologie arabe. Je pense ici à celle de Maurice Glouton, ou bien à la lumière donc des questions contemporaines et des problématiques de l'époque. Je pense ici à celle de Hamza Aboubakr. Et on a d'autres traductions donc, qui sont des traductions de découverte. Et je pense ici à celle de Rachid Mahache, qui permet justement de lire, de découvrir donc la beauté du style coranique et de ses sens, sans avoir besoin justement de s'arrêter sur de nombreuses notes et de nombreuses explications. Et donc pour illustrer celle-ci, je vais vous lire donc Sourate Al-Ma'un, qu'il traduit par Le Soutien. Et il dit dedans, enfin plutôt il traduit, As-tu vu celui qui traite le jugement dernier de mensonge. C'est celui-là même qui repousse sans ménagement l'orphelin et n'incite pas les autres à nourrir celui qui est dans le besoin. Malheur donc à ceux qui accomplissent la prière sans accorder aucune importance à cette dernière, agissant par pure ostentation sans être sincères et refusent le moindre soutien à leur prochain. Voilà, donc ça permet d'illustrer, on va dire, les différents styles de traduction et j'espère que ça vous sera utile dans vos choix pour justement sélectionner la traduction la plus adaptée à votre besoin du moment. Par exemple, j'imagine la méditation pendant le Ramadan, ou bien un Coran à offrir à vos proches qui ne sont pas musulmans, ou bien un Coran plus pour travailler, comprendre, entrer dans les détails, donc des significations.
Merci pour cet exposé très intéressant. On se rend bien compte, en écoutant ce que tu dis, de l'énorme privilège qui est le nôtre d'avoir accès à une telle richesse au niveau des traductions du Coran. Tu dis que chacun doit choisir la traduction qui correspond à ses besoins. Je pense effectivement que c'est une règle de base à avoir en tête. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'avoir chez soi plusieurs traductions du Coran? Tu évoques plusieurs types de traductions, donc peut-être choisir des traductions de différents types.
Alors oui, effectivement, je pense qu'il est important donc d'avoir plusieurs traductions chez soi, parce qu'on peut avoir plusieurs besoins. On peut avoir un besoin de lire uniquement pour méditer, et dans ces cas-là, un Coran d'études n'est pas du tout adapté. Et on peut avoir parfois envie d'approfondir donc les significations du Coran, pardon, sans revenir pour autant à un tafsir très très long avec beaucoup d'informations. Mais un Coran avec juste quelques notes pourrait suffire. Donc je pense que il est important. Pour moi, en fait, je pense qu'il y a trois Corans, enfin trois traductions du Coran à avoir chez soi, je dirais même quatre. Il faut avoir celle de Hamidullah, parce que les notes qui s'y trouvent, il n'y a d'équivalent dans aucune autre traduction. Vraiment, le fait qu'il soit capable d'expliquer le Coran avec le Coran lui-même. Donc, donc le tafsir du Coran bil Coran, qui soit capable d'expliquer le Coran en citant des versets bibliques, donc de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais également des passages de la Velda, etc. En fait, on voit qu'il y a une juridiction qui est telle que la qualité de ces notes ne se retrouve nulle part ailleurs. Vraiment quelqu'un qui peut jouer avec des sources asiatiques, arabes, islamiques, latines et tout, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, la traduction du Coran de Hamidullah, c'est impératif de l'avoir. Alors c'est vrai, elle n'est pas extrêmement agréable à lire parce qu'elle est très littérale, mais quand on voit la richesse des annotations, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Mais voilà, c'est vraiment pour un courant d'études, c'est pour lire, approfondir, pour découvrir autre chose. Ensuite, la traduction du Coran Taouba, franchement, la qualité des notes. Même si, enfin c'est difficile de le lire comme ça pour le méditer, parce que comme il y a beaucoup de notes, ben on s'arrête souvent et on est coupé dans la lecture. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la richesse des notes, donc il nous renvoie à chaque fois à ce que Ibn Kathir a dit, ou bien d'autres exégètes, mais en particulier Ibn Kathir, permet vraiment d'approfondir en peu de temps certaines notions. Et vraiment, on voit qu'il y a une méthodologie rigoureuse dans la traduction. Voilà, ensuite, celui de Maurice Glotton me semble aussi indispensable. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une autre vision donc du Coran, puisque cette fois-ci, on va pouvoir remonter à la racine de chaque mot et donc découvrir en fait des sens beaucoup plus profonds. Par exemple, quand il va parler de kafir, donc de ce qui est traduit ailleurs par mécréance, par exemple, enfin de kufr, ce qui est traduit ailleurs par mécréance, lui va parler de déni, dénégateur, il va faire le lien donc avec les cultivateurs qui creusent donc le sol pour enfouir des graines et qui recouvrent les graines afin justement donc afin enfin pour la semence pardon. Et lui il va montrer en fait que de la même manière en fait Dieu Allah a mis la foi dans le cœur de l'être humain et qu'en fait le kufr ça revient à en fait enterrer cette foi en fait à dénier cette foi de la même manière que le cultivateur creuse la terre pour y mettre les graines à l'intérieur et le refermer. Mais en fait c'est comme si il écrase ou il nie cette foi. Et donc, en fait, il va faire des parallèles comme ça en faisant jouer la langue arabe, qui, je pense, est très, très instructif, mais bien sûr, n'intéressera pas tout le monde. Et après, pour moi, vraiment pour la méditation, il n'y a pas mieux, je pense, que la traduction de Rachid Mach aux éditions de Beïna. Parce que là, vraiment, on arrive à voir l'esthétique une traduction qui est vraiment fidèle à l'exégèse. Mais qui, on va dire, directement filtré en fait, sans avoir besoin de longues explications, on a directement l'essentiel. Et en plus, avec le respect de la beauté du style coranique. Donc, je pense que c'est bien d'avoir au moins ces quatre traductions chez soi et de varier dans la lecture fonction du besoin du moment. Voilà, quand c'est de la méditation, quand c'est de l'apprentissage, quand c'est de l'approfondissement, etc.
Thomas, merci pour ces réponses vraiment très intéressantes. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la. Et si vous voulez plus de partage de lecture, suivez-moi sur Instagram, TikTok et Telegram. Et n'oubliez pas, une oumma qui lit est une oumma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.